Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au départ, la radio américaine NPR avait demandé à l'écrivain Paul Auster de raconter des histoires sur les ondes. Lui a proposé d'en recueillir et il a lancé à cette occasion un projet nommé le National Story Project, qu'on pourrait traduire par Recueil national d'histoire ou Projet national de récit. J'ai expliqué aux auditeurs que je cherchais des histoires, raconte l'auteur new-yorkais. Celles-ci devaient être vraies, elles devaient être brèves, mais il n'y aurait aucune restriction quant au sujet ni au style. Ce qui m'intéressait le plus, c'était des histoires non conformes à ce que nous attendons de l'existence. Des anecdotes révélatrices, des forces mystérieuses et ignorées qui agissent dans nos vies, dans nos histoires de famille, dans nos esprits et nos corps, dans nos âmes. En d'autres termes, des histoires vraies aux allures de fiction. Les gens allaient explorer leur vie et leurs expériences personnelles, mais en même temps, ils s'associeraient à un effort collectif, à quelque chose de plus vaste qu'eux. Paul Auster reçut 5000 récits environ, dont un grand nombre furent diffusés chaque premier samedi du mois entre 1999 et 2001. Ces histoires permettaient, selon lui, d'illustrer les valeurs d'une société, de nous faire réfléchir à ce que nous sommes et à ce en quoi nous croyons. Pour Auster, au fond, ce projet incarnait, je cite, « la démocratie en action ». Nous, au pied sur terre, dans nos rêves les plus fous, dans un autre monde, c'est ce que nous aimerions faire avec les histoires que nous présentons dans les pieds sur scène et parfois aussi dans les pieds sur terre. Je dis bien dans nos rêves, car rassurez-vous, il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous comparer à Paul Auster ou à son projet. Mais c'est un horizon, son projet est une inspiration pour nous, et pour ce deuxième volet des pieds sur scène, reprenons le thème de nos vies françaises, ce que c'est que d'être français et de vivre en France. Voici trois nouvelles histoires racontées sur scène par ceux qui les ont vécues, Cécile Cozzolino, Leïla et Éric Blondin, et mises en récit par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mes parents essayaient d'avoir un enfant depuis 5 ou 6 ans et ça ne marchait pas. Ils ont décidé d'adopter. Ils ont contacté la DAS, fait toutes les démarches administratives. Une assistante sociale est venue chez eux et leur a dit qu'ils obtiendraient sans problème l'agrément. Cette même dame leur a dit aussi « Si vous voulez un enfant de moins de 3 ans en bonne santé, préparez-vous à attendre plusieurs années. En revanche, si vous acceptez d'adopter un adolescent en difficulté ou un enfant handicapé, atteint du sida ou aveugle, là ça pourra aller assez vite car il n'y a pas grand monde sur la liste d'attente. » Sauf que mes parents étaient comme tout le monde, ils avaient envie d'avoir un petit bébé en bonne santé. Quelque temps plus tard, au travail, mon père discute à la machine à café avec une collègue, Hélène, qui lui raconte que son amie d'enfance, qu'on va appeler Laurence, vient de tomber enceinte. Le père s'est volatilisé dans la nature sans laisser d'adresse. Elle a déjà eu un enfant toute seule et ne veut pas recommencer, ni avorter. En entendant cette histoire, mon père adoptif se dit qu'il a peut-être trouvé une solution à son problème. Donc il contacte Laurence et lui propose de reconnaître l'enfant comme père célibataire. Bon, je vous épargne les détails administratifs complexes, le plan est absolument tiré par les cheveux, on est au minimum sur une usurpation de paternité. Mais Laurence accepte. Il conclut l'affaire et se donne rendez-vous quelques mois plus tard à la maternité. En février 1981, Laurence accouche de moi. Elle me regarde, je suis énorme, j'ai 5,450 kg. D'après le médecin, quand elle s'est aperçue que j'étais noire, elle est restée quelques instants bouche bée comme si ce n'était pas prévu. Elle a dit « Ah bon ? Bon ben d'accord. » Mon père adoptif est arrivé à la maternité directement après l'accouchement. Il m'a regardée, pris dans ses bras. Et là, je ne sais pas si c'est parce qu'il était trop content, trop excité ou qu'il avait la tête ailleurs, mais il n'a rien remarqué de spécial. Il est parti à la mairie pour me déclarer. Tout a fonctionné comme prévu. On me donne un état civil. Je suis Cécile, la fille naturelle du père célibataire Alain. Pendant ce temps-là, ma mère adoptive attendait à la maison. Elle n'avait pas le droit de venir à la clinique. Et il ne pouvait pas y avoir deux mamans. Et mon père lui raconte, c'est une fille, elle est grosse, elle a beaucoup de cheveux, elle est très brune, et c'est tout. 2 jours plus tard, je peux sortir de la maternité, ma mère adoptive va enfin pouvoir me rencontrer, elle est folle d'impatience. Mon père lui tend le couffin dans lequel je suis emmitouflée, et elle lui dit, sors, va faire des courses, n'importe quoi, mais laisse-moi un moment toute seule avec elle. Elle me prend, elle me regarde, et là, au lieu de se poser des questions sur ma couleur, elle commence à me raconter toute l'histoire. Oui, on est à la grande époque de Dolto, mes parents étaient éducateurs spécialisés, donc il faut parler à l'enfant, tout lui raconter, ne rien lui cacher. Donc j'ai à peine 2 jours qu'on me raconte déjà longuement toute l'histoire, mais à aucun moment donné on ne me parle de la couleur. Alors est-ce qu'elle ne l'a pas vue, ou est-ce qu'elle l'a vue et que ça ne lui est pas monté au cerveau? Ça je sais pas. Le lendemain de mon arrivée à la maison, une amie de ma mère est venue nous rencontrer, et elle dit à ma mère, « Oh, il est marrant ton bébé, il est typé, elle a la peau foncée, on dirait qu'elle vient d'Inde ou du Pakistan. » Et ma mère me dit, « Ah bon, non, c'est Cécile, c'est ma fille, point. » Au 7e jour, ma mère me couche dans mon petit berceau, et pendant la nuit, mes cheveux qui jusqu'ici étaient raides et plaqués sur mon crâne deviennent crépus. Au matin, quand elle vient me récupérer, j'ai la coupe afro. Bon, donc là, il devient évident que j'ai des origines exotiques. Ma mère se rend compte que je suis métisse, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Je crois qu'elle est tellement contente d'avoir un petit bébé à elle qu'elle met ça sous le tapis. Ça ne l'intéresse pas, ces histoires d'origine. Je suis Cécile, la fille adorée de mes parents. Je grandis dans un petit village de Provence. J'ai des souvenirs et des photos où je suis en jupon folklorique au club de danse provençal. Ou encore avec un bonnet phrygien en 89, le jour de la Révolution française. La famille de ma mère est originaire de Haute-Marne. Dans leur arbre généalogique, on peut au moins remonter au XIIIe siècle sans croiser un mélange ou un métissage. On est dans du franco-français pur et dur. Et il y a des photos où on voit la toile cirée à carreaux, la bouteille de pinard, les franchouillards en charentaise et une petite fille noire avec la coupe d'Angela Davis et les dents de la chance de Yannick Noah. J'ai bien dû me faire traiter 1 ou 2 fois de bamboula, mais franchement, je comprenais pas de quoi on me parlait. Ça a marché un moment, mais plus je grandissais, plus je voyais que je faisais tache sur la photo et qu'il y avait un loup dans la bergerie. J'ai commencé à poser des questions plus précises sur mes origines à ma mère, qui a retrouvé l'adresse de Laurence, ma mère biologique. Je lui ai écrit et elle m'a répondu « Ton père, il est malien ». Là, ça a été comme une révélation. Tout à coup, de provençale, je devenais malienne. J'avais 16 ans, je me suis faite des dreadlocks, je fabriquais moi-même mes tongs en plastique et mes pantalons africains. Je me suis initiée au vaudou, à la culture d'Ogon, je me suis mise au tam-tam. J'allais acheter du manioc à l'épicerie orientale. J'y allais à fond, quoi. Et je mangeais même avec mes doigts assise par terre dans la cuisine. Pendant ce temps-là, ma mère, là-haut marnaise, attendait patiemment, elle ne disait rien. Elle attendait que ça passe, quoi. Quelques années plus tard, j'ai fait un voyage au Mali pour connaître ce que je croyais être mes origines. Ma mère est venue avec moi. Au Mali, ça a été compliqué. J'étais une toubabe, une blanche. Je mettais mon pagne dans le mauvais sens. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas mariée ou pourquoi j'avais pas d'enfant. Et ceux qui voyaient que j'étais métisse espéraient que je les aide pour obtenir un visa. Pour être honnête, ça a été une catastrophe. Et ça m'a un peu calmée question identité. Mais dernièrement, j'ai quand même recontacté ma mère biologique. Cette fois-ci, elle m'a dit « Ton père, il est congolais. » Non, excuse-moi, il est gabonais. Enfin bref, je ne suis pas partie en République démocratique du Congo, ni au Gabon. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être la contacter tous les 10 ans pour changer d'origine. Peut-être même qu'un jour, elle me dira que mon père, c'était Iti, et là, je ferai peut-être les frais d'un voyage dans l'espace.
Thank you.
histoire a commencé en 2011 sur Twitter. J'ai retweeté le tweet d'un garçon qu'une amie à moi avait retweeté. C'était un tweet drôle, alors je l'ai retweeté. Mais je connaissais pas du tout ce garçon. Lui, il a dû me trouver jolie sur ma photo de profil, alors il s'est abonné à mon compte. Il a commencé à m'envoyer des messages privés. Et à l'époque, j'avais 18 ans. Lui paraissait un peu plus âgé que moi, donc j'étais un peu méfiante. Mais j'aimais bien les tweets qu'il faisait, alors je me suis abonnée en retour et on a commencé à discuter. Ce que j'aimais, c'était qu'il parlait de rap, de politique, et ce qui m'impressionnait à l'époque, c'est qu'il n'avait pas peur de se clasher. Moi, de mon côté, sur mon compte, je tweetais plus des trucs de meufs entre copines, enfin rien de très intéressant. Un an après, on a décidé de se rencontrer pour de vrai. On est allé manger et il m'a tout de suite plu. Il était cool, détendu, drôle et il avait du style. On a commencé à sortir ensemble et c'est devenu sérieux. C'était la première fois que j'avais une longue et vraie relation amoureuse et j'étais heureuse. C'est pour ça que quand il a commencé à me faire un peu des embrouilles, j'ai d'abord pardonné. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, d'autres filles qu'il chauffait sur Twitter. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il devenait de plus en plus accro à ce réseau social. Dès le matin, il pensait déjà à ce qu'il allait poster. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui fasse le buzz. Le soir, ça lui arrivait même de s'endormir avec son téléphone. C'était devenu la course aux followers. Il parlait que de ça, à croire que ça lui rapportait de l'argent. À un moment donné, il a fini par atteindre les 6000 abonnés. Ça y est, il était enfin quelqu'un. Ça lui donnait cette impression de puissance. Il en parlait tout le temps et ça l'avait rendu un petit peu fou. Après un an et demi, j'en ai eu marre. J'ai décidé de le quitter. Je lui ai dit, bon, je te laisse avec ton compte Twitter. Et ça lui a pas plu. Comme ces personnes qui détestent qu'on leur dise non. Alors il m'a insulté. C'était la première fois qu'il se montrait aussi violent avec moi. Alors j'ai décidé de me désabonner de son compte, supprimer son numéro et le bloquer. J'ai plus entendu parler de lui. Au début, c'était difficile, mais je suis passée à autre chose. Des mois plus tard, j'étais tranquillement assise chez moi, quand une de mes copines m'envoie un message et me dit « Leïla, dépêche-toi, connecte-toi sur ton compte Twitter, il se passe un truc de ouf !» Alors j'y vais et je vois que je suis notifiée sur un compte qui fait apparaître deux vidéos de moi. Sur la première vidéo, je suis nue, de dos. Je me souviens qu'à ce moment-là, je sortais de la salle de bain, j'avais retiré ma serviette et j'étais en train de danser, je faisais la folle. Il m'avait filmé à ce moment-là et j'avais totalement confiance en lui, j'étais amoureuse, j'étais heureuse. Sur la deuxième vidéo, pareil, je suis nue, de dos. Cette fois-ci, je suis allongée et je parlais, il me parlait, il me disait des trucs amoureux. Sur ces vidéos, on voit pas mon visage, uniquement mon corps. Ça a été le tremblement de terre. Je me suis dit, c'est pas possible, il a pas pu me faire ça. Je suis restée les yeux fixés sur mon écran et au bout de 5 minutes, les vidéos avaient été partagées plus d'une dizaine de fois. Au bout d'une heure, elles avaient été partagées plus de 500 fois. C'était la panique, ça s'arrêtait plus, il y avait que des retweets et des partages. Je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à lâcher mon écran de téléphone. Et là, il y a un de mes amis qui m'envoie un message et qui me dit « Tu te déconnectes, tu supprimes ton compte Twitter parce que les 48 prochaines heures vont être horribles. » Mais j'y arrivais pas, c'était comme dans un cauchemar, j'étais tétanisée. Et il y avait des commentaires. Des commentaires de garçons qui disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est noire sur la vidéo, on la voit même pas, elle doit certainement avoir Ebola. » N'importe quoi. Et il y avait aussi des commentaires, c'était plus des propositions. « Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, je la baiserais bien. » Et puis il y avait surtout les commentaires des filles qui étaient beaucoup plus violents, qui parlaient de mon physique. « Oh, elle a des fesses trop plates, trop noires, elle a des seins comme ci ou comme ça. » Ah oui, et il y a un commentaire qui m'a marqué. Et ce commentaire disait « Ta mère doit être fière de toi. De toute façon, tu feras rien de ta vie parce que ça paye pas d'être une pute. » Je me suis dit que si je voulais porter plainte, il fallait absolument que je prenne des captures d'écran pour pouvoir les montrer à la police. Donc j'ai vu ce commentaire qui m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que j'ai repensé à mes parents. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai pensé à eux. Vous savez, mes parents sont des gens très comme il faut. À la maison, c'est très tradit. Et on parle jamais, mais alors jamais de sexe. Alors, voir leur fille à poil sur Internet, c'était juste inimaginable. Je me suis dit que ça allait certainement remonter aux oreilles de mon père, de ma mère et de toutes les tantes du quartier et que j'allais être la honte de la famille. À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit que j'allais sauter. Puis bon, ma chambre allait au premier étage, donc ça aurait rien changé. Donc je suis restée là, regardée par ma fenêtre. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour sortir de là? Comment je vais faire pour supporter le regard des autres? Mais le lendemain, il a bien fallu sortir pour aller porter plainte. Sur le chemin du retour, j'ai croisé mon petit frère. J'ai tout de suite vu qu'il avait vu les vidéos. Sa gêne, la gêne qu'il avait m'a vraiment fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, il ne m'a pas adressé la parole pendant quelques mois. Et puis, c'est fini par passer. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais on n'en a plus jamais reparlé. Les vidéos sont restées un peu plus d'une semaine sur Twitter. Le temps que je fasse les démarches pour que Twitter les supprime. Les flics ont dit qu'ils allaient essayer de faire quelque chose, mais j'ai jamais eu de leurs nouvelles. Du coup, j'ai pris contact avec une avocate spécialisée dans le cyberharcèlement. Mais elle me demandait 500 euros par mois et avec mon salaire d'étudiante en alternance, je ne pouvais pas les payer. Alors je me suis dit que je n'obtiendrais jamais justice et qu'ils seraient peut-être jamais condamnés. Je dormais plus, je mangeais plus et finalement, ma réaction a été de me raser la tête complètement parce que je me sentais sale. Pourtant, je les aimais bien, mes cheveux, mais je me suis dit que ça allait me permettre de repartir à zéro. Et bizarrement, c'est ce qui m'a aidé à garder la tête haute.
Je suis rentré dans la police un peu par hasard. Je galérais dans ma Corse adoptive, ou transporteur routier. Je transportais des marchandises et des cercueils jusqu'au fin fond des villages les plus reculés. Tout ça pour même pas le SMIC. J'avais un beau-frère policier qui, chaque été, pendant ses congés, venait me voir et, dans nos discussions, il disait toujours « Mais rentre dans la police, tu verras, tu auras un vrai salaire ». Et puis, des horaires normaux. Puis toi qui aimes ça, affecté au garage central, tu pourras faire de la mécanique si tu veux. Moi, j'ai dit pas question. Si je rentre dans la police, c'est pour faire flic. Parce que je trouvais que c'était un beau métier. On intervenait pour la bonne cause. On faisait des interpellations, des méchants, qu'on neutralisait et qu'on livrait à la justice. Une fois sur le terrain, j'ai été affecté dans une brigade anticriminalité. C'était une équipe d'élite avec des types bourrés d'éthique et de courage. On était la terreur des arracheurs, des roulottiers, des tireurs, même des braqueurs de banque. Tout le monde nous enviait tellement on faisait de belles affaires. J'ai adoré cette époque. Et puis, j'ai été affecté dans un commissariat parisien un peu banal, avec des quartiers tranquilles, deux ou trois cités un peu chaudes. Là, j'ai commencé à voir des collègues qui faisaient leur justice tout seuls, à coups de baffes, à coups de taloches, d'insultes. C'était fréquent, banal même. Un jour, un nouveau collègue a été affecté. Il s'appelait Mounir. Il était d'origine algérienne, je crois. Mais on n'en parlait pas. Je ne sais pas si c'est pour le faire oublier ou si c'était pour se faire accepter ou ce qu'il en croyait. Mais chaque fois qu'il croisait des jeunes des cités d'origine maghrébine, il disait « Regarde-moi ces bonnes gueules de racailles. Moi, je te réglerai ça à coups de lance-flammes ». Ce genre d'insultes racistes, les collègues les entendaient tout le temps, mais quand ça venait de Mounir, ils ne savaient pas trop comment réagir. Dans le secteur du commissariat, on avait une grosse cité, une zone de petits trafics en tout genre. Mounir, ça ne lui faisait pas peur. Au contraire, il aimait aller au contact. Il s'est mis à faire des contrôles de plus en plus décomplexés. Il mettait des mitaines de plomb en partant en service pour mettre des coups en douce aux jeunes lors des interpellations. Alors en général, ça dégénérait, le jeune se retrouvait avec les menottes en garde à vue pour outrage à agent. Faut savoir que quand on est flic, on peut augmenter son salaire confortablement grâce aux outrages et rébellions. Ça passe au tribunal qui nous octroie entre 300 et 500 euros de dommages et intérêts. En plus, pour les statistiques du commissariat, ça fait du chiffre et de l'activité. Donc au final, Mounir était plutôt bien vu par la hiérarchie. Moi, je me tenais à distance jusqu'au jour où j'ai dû participer à ce qu'on appelle un 78-2 dans la cité avec Mounir. Un 78-2, c'est l'article du Code de procédure pénale. C'est une grosse opération réclamée par un préfet et ça consiste à ratisser tout un quartier, à contrôler tout le monde. Une opération pour montrer sa force, en quelque sorte. Une démonstration. Donc, je me retrouve là et je vois Mounir qui attrape un gamin d'une quinzaine d'années. Ils se connaissent. Le gamin, c'est un gamin qui traîne. Il se retrouve souvent en vérification au poste. Mounir le plaque contre le mur et exige ses papiers. Le gamin est à cran. Il obtempère pas tout de suite. Mounir l'insulte, le traite de petit racaille, d'enculé. Et il le bouscule devant mes yeux. À ce moment, un grand frère de la cité s'approche et lui dit « Monsieur, si vous continuez comme ça, franchement, il va y avoir un clash. Je suis désolé, mais franchement, il va y avoir un clash. » Mounir lui laisse pas terminer. Il hurle « Ferme ta gueule, ici c'est moi la police. » À ce moment, je décide d'intervenir, de m'interposer. J'essaye de calmer le jeu. Mais voilà, Mounir, il fait 2 mètres, 110 kilos, et il m'envoie valser dans le décor. Seule la présence d'un jeune officier à qui je fais appel permet de calmer les velléités de Mounir. En rentrant, je décide d'écrire à ma hiérarchie. À ce moment précis, je sais très bien que j'enfreins la règle tacite de la police, le silence. On balance pas un collègue, on couvre. J'écris un rapport, plusieurs pages de rapport, précis, circonstancié. Au commissariat, j'ai la réputation déjà de faire dans le social, comme ils disent, mais je m'entends plutôt bien avec mes collègues. Là, je sais que ça va avoir du mal à passer. Pourtant, j'y vais. Je tape sur mon clavier, je termine mon rapport, il est 2h du matin. Le lendemain, je le dépose sur le bureau de mes supérieurs, conformément à la procédure, je fais tout dans les règles. Lorsque j'apprends qu'une enquête IGS a été ouverte suite à mon rapport, je suis fier de mon action. Je suis comme un lanceur d'alerte qui fait bouger les choses. D'autant que dans la cité, après l'action, l'intervention violente, les jeunes ont réussi à connaître l'identité de Mounir. Ils taguent son nom sur les murs et écrivent qu'ils vont lui faire la peau. Ça devient de plus en plus tendu dans la cité, on a de plus en plus de mal à y rentrer. On est devenu une espèce de bande rivale. Et voilà à quoi ma démarche citoyenne, mon acte de rébellion éthique a abouti. Quelque temps plus tard, c'est moi qui suis traduit devant le conseil de discipline pour avoir interféré dans le contrôle d'identité de Mounir. Je demande à voir mon dossier administratif en vue de ma convocation. Et là, je m'aperçois que mon rapport a disparu. Mon chef l'a jeté à la poubelle. J'ai fait un recours et j'ai pris un blâme. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir. Donc, quant à Mounir, lui, le chef lui a octroyé 2 semaines de vacances. Il lui dit « Repose-toi bien, tes congés, on va les prendre sur nous. » À ce moment-là, j'aurais dû comprendre et tout arrêter. Mais j'ai continué, je me suis accroché. J'ai écrit des tas et des tas de rapports pendant des années. Je les ai pas comptés, mais dire que j'en ai écrit plusieurs dizaines permet de se faire une idée. Chaque fois que je voyais un manquement au code, je faisais un rapport circonstancié. C'était systématique. Ce que ça a changé, c'est que quand je rentrais dans un commissariat, pour me dire bonjour, au lieu de me serrer la main, on me crachait sur les godasses. Les mecs, ils disaient, quand on aime le social, ben, faut aller dans le social, faut. Et puis mes supérieurs me regardaient en souriant, en sachant très bien qu'il n'y aurait aucune suite. Alors un jour, je me suis dit qu'ils avaient gagné. J'ai arrêté. Je suis parti. Maintenant, je suis gardien, bûcheron, homme à tout faire dans un château. Et ce que je préfère, c'est partir seul dans la forêt pour couper du bois.
Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe, doesn't matter anyhow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason that I'm traveling on. Don't think twice, it's alright.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec nos vies françaises, le deuxième volet de la sixième édition des Pieds sur Scène, des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécues. Cette série-là a été enregistrée à la Maison de la Radio les 1er et 2 avril 2017. C'est une émission signée Delphine Saltel, réalisée par Cécile Lafont, avec un coup de main de Véronique Villa.
And calling out my name, God, like you never did before. Ain't no use in calling out my name, God, I can't hear you anymore. Still I'm wishing there was something you could do or say that would make me change my mind and stay. But we never really did that much talking anyway. But don't think twice, it's alright.